Je vous rassure, hein, cette interview se concentrera sur vos BD, je ne fais qu'évoquer votre carrière scientifique pour justement que nos audi lecteurs comprennent mieux votre humour absurde. Comment un chercheur en informatique en pointe dans les années 1980 et 1990 sur l'intelligence artificielle s'est retrouvé star de la bande dessinée française, souvent citée dans les milieux d'art contemporain et de création théâtrale? Il fallait que nous posions la question sans partir dans nos interrogations ultra-techniques sur l'intelligence artificielle. Nous recevons donc par satellite Daniel Goussens, auteur-dessinateur pour Fluide Glacial, spécialiste de l'humour absurde, Grand Prix de la ville d'Angoulême en 1997, et accessoirement, enseignant-chercheur en intelligence artificielle. CPU, carré et petit utile. Monsieur Goussens, je peux vous appeler monsieur ou maître ?
Non, monsieur, monsieur.
Je suis désolé de vous poser des questions sur votre domaine universitaire. Vous risquez d'être invité à plein de conférences d'informaticiens, des TEDx, voire des plateaux de YouTubeurs. Ça vous gêne pas, j'espère ?
Non.
Bon, tant mieux. Comment vous en êtes-vous venu à étudier l'informatique dans les années 70 ?
Alors, j'avais été dégoûté des études après le lycée. Je suis allé dans une université qui s'appelait Paris 8, c'était une université expérimentale. J'y étais allé parce qu'il y avait un cours de bande dessinée donné par Giraud, Blueberry,
Moebius, quoi. Un maître,
oui, voilà.
Un autre maître.
Et Mézières. Donc c'était très attirant. Ouf. Puis quand je suis arrivé, bah eux étaient plus là. Bon, enfin bref, pressé par mes parents, je suis allé dans des cours d'informatique, non de mathématiques d'abord. Mmh. Informatique, ça me parlait pas trop. Et puis là, j'ai croisé un étudiant qui lui m'a fait la pub des enseignements informatiques à Paris 8, qui démarrait tout de suite avec le langage Lisp, un langage spécialisé dans l'intelligence artificielle. Donc je suis allé faire un tour. L'informatique, ça me parlait pas, parce que à l'époque, pour moi, l'informatique, c'était des langages très pauvres. C'était le Fortran, le COBOL, le GAP, machin comme ça. Ça servait à faire des fiches de paye, de la comptabilité. Enfin bref, ceci dit, quand on est jeune, on se tient loin de ça, mais après, on se rend compte qu'il faut bien participer aux corvées, hein, du grand système de confort dont on profite. Enfin bref, donc j'ai pas de mépris du tout, hein, pour ces langages COBOL, Fortran et autres trucs. Mais c'était des langages qui obligeaient à comprendre le fonctionnement complet d'un ordinateur, l'architecture, la mémoire, tout ça, etc. Alors que Lisp, j'ai été formé directement en Lisp. Ça permettait de faire tout de suite des manipulations logiques, mathématiques, sans avoir à comprendre beaucoup d'informatique. Il n'y a pas à typer ces variables. Les expressions, c'est des listes. Il y a une seule syntaxe, la liste, hein, avec le nom d'une fonction puis ses arguments. Il y a que ça en Lisp. Comment dire ? J'ai appris Lisp avec un polycopier formidable d'un enseignant de l'époque qui s'appelait Patrick Grosset, qui est à la retraite maintenant, qui était superbement bien fait. Ça demandait aucun bagage. C'était de l'enseignement programmé, comme on disait, c'est-à-dire des petits exercices simples, mais en grand nombre, ce qui fait qu'on savait tous les résoudre. Ça permettait de mémoriser toutes les fonctions du langage. Là, pour Lisp, c'était char, CDR, cons, qui manipulait des listes. Et donc, du coup, tout de suite, il y a des projets que j'avais eus quand j'étais lycéen ou collégien, qui ont ressurgi, que j'avais enterré parce que les mathématiques au lycée, c'était devenu trop abstrait, trop bizarre, etc. Quoi, j'avais fini par être dégoûté. Là, hop, ça a ressurgi. J'ai eu envie de faire des choses naïves, très simples, mais à partir d'un ordinateur.
Mmh, forcément. Donc, alors, je veux bien ouvrir une parenthèse sur le langage Lisp, mais comment la refermer ?
On finit par abandonner Lisp. Pour moi, Lisp, c'est un super... Il faut la refermer très vite. C'est un super langage d'introduction. Et surtout, faut voir qu'à l'époque, Lisp... C'était un langage révolutionnaire, futuriste, parce que vraiment, il y avait que, je disais, Fortran, Basic. Ceux qui ont travaillé dans ces très vieux langages savent qu'on est obligé de s'occuper de comment gérer la mémoire, comment découper ces mots mémoire, etc. En Lisp, c'était un truc de très haut niveau. C'est le premier langage de très haut niveau qui est apparu. Pas besoin de comprendre comment ça se passe dans les mots mémoire, dans l'unité arithmétique et logique, dans l'architecture d'ordinateur, pas besoin. Hein, on pouvait se contenter de penser qu'on était dans un univers abstrait de symboles. Et à ce moment-là, bah, le premier projet que j'ai fait, moi, hein, je me souviens, en première année de licence, c'était un truc incroyablement naïf. C'était modéliser les opérations arithmétiques, l'addition, la multiplication, la soustraction, la division, avec des listes de chiffres. Ouais, je m'étais mis ça en tête, ça permet de... Ça sert à rien. Mais ça faisait travailler, c'est-à-dire ça m'a fait travailler tout comment je mets les chiffres, je les remets comme ça, puis là, puis là, puis là, pour que ça fasse l'algorithme d'addition, par exemple. Puis la retenue, puis voilà, etc. Puis j'ai réussi, je suis venu au bout de ce truc, j'étais très fier d'avoir réalisé un truc comme ça. Enfin bref, donc LIS permettait ça, permettait de s'introduire en informatique sans avoir besoin d'une formation énorme, technique, comme demandaient les autres langages.
Oui, puisque Pascal est arrivé après, et puis on est dans une époque où tous les processeurs...
Ben Pascal, c'est aussi très structuré.
Ouais. Oui, et surtout, on est à une époque où les microprocesseurs n'avaient pas forcément les fonctions de multiplication et de division, donc c'était important de savoir comment les réaliser.
En tout cas, ils n'avaient pas les big nums, comme on dit, c'est-à-dire ils n'avaient pas les additions avec des tailles énormes de nombres. Donc, ça pouvait avoir une petite utilité comme ça, mais enfin bon, c'était pas non plus... très, très sophistiqué, subtil et tout ça comme projet. Mais enfin bon, c'était un projet de début, quoi.
Et comment votre sujet d'étude est devenu l'intelligence artificielle? On est à peu près en quelle année?
74, ça démarre en 74.
Punaise.
Ça nous rajeunit pas tout ça.
Non, ouais. Je venais tout juste de naître. Et Giscard, la crise du pétrole et tout ça, c'est les meilleures années. Et en fait, justement, c'est comment vous êtes arrivé sur ce domaine qui, à l'époque, est un domaine émergent dans l'informatique?
Tout de suite après... Ce fameux prof, là, Patrick Grosset, nous a montré un truc vraiment étrange, mind-blowing, comme on dit en américain. C'est un système de cinq instructions, on appelait ça des combinateurs. La logique s'appelait la logique combinatoire de Curry Howard. Et donc, c'est résumé à cinq lettres, I, B, C, K, W, je me rappelle encore. Et il nous montrait qu'avec ces cinq instructions toutes simples, on pouvait partir d'une chaîne de caractères et obtenir n'importe quelle autre chaîne de caractères, c'est-à-dire fabriquer toutes les fonctions imaginables. Et donc, moi, je m'étais lancé dans un projet, j'avais vu ce truc-là, j'ai dit « Ah ouais, super, je vais essayer de faire un machin qui génère le programme en combinateur avec des I, B, C, K, W, qui, à partir d'une chaîne, donne une autre chaîne. » Alors, I, ça faisait rien, B, ça parenthésait deux trucs, C, ça commutait deux éléments, K, ça en supprimait un, et W, ça en doublait un. Hein, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais les logiciens des années 20, 30, 40 ont inventé ces trucs-là et démontré que ça permettait, si on a un algorithme aussi compliqué qu'on veut en C++, bah, on peut le faire, théoriquement, avec cette logique combinatoire, très résumée. Donc voilà, j'ai réussi à un moment à faire, c'était pareil, c'était naïf, maintenant je sais qu'avec une fonction récursive simple, on peut faire ce boulot très rapidement, mais à l'époque je savais pas, donc j'ai mis quelques mois à fabriquer un programme qui générait cette fameuse combinaison de combinateurs qu'on mettait devant une chaîne de caractères, et puis en le simulant, ça donnait la chaîne de caractères de sortie. Voilà, j'ai réussi à faire ça. Tout de suite après, comme j'avais beaucoup travaillé en Lisp et que j'avais passé beaucoup de temps à comprendre mes codes sources et à les débugger, je m'étais dit qu'on pouvait sûrement faire un programme automatique lui-même qui prendrait en entrée un programme Lisp et qui essaierait de comprendre ce qu'il fait et éventuellement de le corriger s'il y avait des erreurs. Et je me suis lancé là-dedans. Ça, c'était mon mémoire de maîtrise, qui s'appelle maintenant un master. À l'époque, ça s'appelait une maîtrise. Donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans l'intelligence artificielle. Avec ce projet de... Mais le prof, là, Patrick Gosset, il était déjà, lui, dans l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'il avait... C'est lui qui avait implémenté ce fameux langage Lisp dont on disposait à l'université Paris 8.
Il y a 50 ans, comment définissait-on l'intelligence artificielle à l'époque? C'était un concept, je crois, qui avait commencé au début des années 60, mais quelle était la définition qu'on pouvait le donner? C'était encore très vague, on le confondait avec l'informatique?
C'était très vague, c'était un truc du genre, il y avait plein de définitions, mais les définitions les premières, c'était celles des vedettes de l'époque, c'est-à-dire John McCarthy, qui est donc le type qui a inventé le langage Lisp, Marvin Minsky, voilà quoi, Newell et Simon, des gens comme ça. Puis je pense que, j'ai pas relu, on peut trouver ça dans des vieux bouquins sur l'histoire de l'IA, par exemple celui de Daniel Crevier, des choses de genre, n'importe quoi qui fait des fonctions que normalement l'intelligence, qui sont réservées à l'intelligence humaine, je sais plus, un truc de genre quoi. Hein, c'était des définitions très floues qu'on pouvait pas utiliser pour fabriquer quoi que ce soit.
On parlait pas encore de casser le test de Turing.
Ouais, c'est-à-dire, ça existait pas encore le test de Turing, je crois.
Si, c'était les années 50 où il avait théorisé.
Son test, c'est-à-dire l'idée de dire si tu tiens une conversation, si ton programme tient une conversation pendant plus de, je sais pas, 5 ou 10 minutes avec un humain et qui détecte pas que c'est une machine. Bon, il est percé maintenant le test de Turing avec les IA actuelles.
Oui, ça c'est clair, ça a beaucoup changé. À l'époque, dans les années 70, on parle de système expert. Est-ce que là, par contre, on a une définition un peu plus claire et un peu plus précise de ce qu'est qu'un système expert ?
Alors, avant les systèmes experts, donc tout était un peu procédural, c'est-à-dire, par exemple, il y a le système de Winograd, la Chordlu, qui était passé à la télé, je me souviens, dans les années 70. C'était un logiciel qui pilotait un robot. On pouvait lui demander des trucs dans un monde de blocs, de cubes, de boules. On lui disait, prends le cube rouge qui est à côté de la pyramide verte, et puis mets-le dans la boîte bleue dans laquelle il y a la boule. Et puis, il était capable de le faire, quoi. Il analysait la phrase, et il prenait avec son bras, et puis hop, et puis il allait poser les objets, etc. Tout ça, c'était procédural. C'est-à-dire, on avait le droit à n'importe quoi, des programmes quelconques. Et puis, on s'est aperçu progressivement qu'il y avait des invariants quand on simulait le raisonnement. Et ces invariants, c'était pas extraordinaire, c'était les logiques qu'avaient inventées les logiciens des siècles avant nous, quoi. En premier lieu, la logique des propositions, l'algèbre de Boole, puis ensuite la logique des prédicats, puis les logiques modales, etc. quoi, usine à gaz à l'infini. Et donc les premiers systèmes experts exploitaient ça. C'était des systèmes de règles. Les plus simples, ce qu'on appelait les systèmes experts d'ordre zéro, c'était juste l'algèbre de Boole, c'est-à-dire une règle, c'était un ensemble de propositions, des variables booléennes connectées avec des et ou des ou, et puis ensuite un implique. Et puis ensuite l'action qui était aussi la déduction, ce qu'on pouvait déduire des conditions, qui était aussi une disjonction ou une conjonction de variables booléennes avec la négation aussi possiblement. Voilà, c'était que des règles comme ça. Et puis quand on passait à l'ordre 1, là on ajoutait des variables, des quantificateurs, c'était la logique des prédicats. Et un exemple de langage de programmation qui pourrait résumer les systèmes experts de l'époque, c'est Prolog.
Voilà. Ah, belle référence.
Oui.
Et quels étaient les débouchés intéressés par cette discipline ? Les industriels, l'armée, Stéphane Collaro ?
Alors, Stéphane Collaro, qui... etc. Je sais que les Américains ont beaucoup exploité ça. En France, j'en ai pas vu, moi, de gens qui aient réussi à placer, à faire de l'argent avec... Mais il y en a sûrement eu, hein, mais je les connais pas. Aux États-Unis, il y a un type qui s'appelle Drew Vincent McDermott, par exemple, qui a vendu un système expert à une boîte. Son système expert, il configurait les logiciels dans un ordinateur de façon automatique. Et apparemment, c'était un problème complexe. Sinon, il y a eu des trucs connus, comme en médecine, il y a eu Dendral. Il y a eu des systèmes experts en médecine, en géologie, pour détecter des minerais. Donc si, ça avait des explications.
On m'a dit que l'industrie pétrolière, historiquement, était très demandeur.
Ouais. Moi, ce que je sais, c'est que McDermott, il s'était fait beaucoup de pognon avec son système expert. Donc si, on pouvait faire de l'argent avec, ouais. Mais il y avait des limites. Enfin, je sais pas si on va parler de ça après.
On peut en parler, si vous le souhaitez. Avant de parler de l'encyclopédie des bébés, oui, on peut en parler si vous le souhaitez.
Ah oui. L'idée, c'est que c'était très difficile à manipuler. Moi, j'ai enseigné Prolog, par exemple, pendant des années. Et qu'est-ce que c'est rigide. C'est très, très dur à utiliser Prolog. Quand on a un programme qui commence à être gros avec plein de règles, simplement modifier une règle, en ajouter une, ça fout un bordel monstre, parce que Prolog, c'est un algorithme simple pour gérer les systèmes experts. C'est un truc qui explore un arbre en profondeur d'abord et en faisant du backtracking, ce qu'on appelle du backtracking. Il revient en arrière quand il a échoué et puis il reprend une autre branche. Alors évidemment, quand on change une règle, ça va changer complètement l'arbre que le programme explore, et puis on ne sait jamais ce qui va arriver. Donc au bout d'une certaine complexité, les programmes Prolog, ils sont ingérables. Donc je pense que c'est ça qui a arrêté, qui a fait que les systèmes experts ont été abandonnés. Et aussi le fait que quand on questionne un expert humain pour essayer de transformer son savoir en règle formelle, en général, les experts, ils sont absolument pas pédagogues, ils savent pas dire ce qu'ils savent. Ils savent des trucs, mais ils savent pas expliquer. C'est en permanence des cas particuliers. Oui, mais vous avez dit que là, on a fait cette règle. Ah oui, mais je vous ai pas dit qu'il y a tel truc, etc. Enfin bon, c'est des cas particuliers à l'infini, et du coup, c'est trop dur à gérer.
Je dois avouer que je fais partie d'une génération privilégiée qui a découvert les stories et le test-driven development. Ça simplifie énormément le boulot.
Ouais.
Deux boîtes vont émerger dans la discipline avec les Lisp machines, donc des processeurs qui sont spécialisés dans l'interprétation du langage Lisp.
Ouais.
ILM, International Lisp Machine, et Symbolix, qui déposera d'ailleurs le premier nom de domaine d'Internet. Il proposait que des calculateurs, que du matériel, ou il faisait aussi du développement logiciel?
Ah, je pense qu'il faisait... Enfin, ceci dit, ça, on peut résumer l'histoire des Lisp machines. Nous, on voyait ça comme, comment dire, avec des yeux gourmands, mais on n'a jamais réussi à avoir une machine Lisp, hein, c'était trop cher. Donc, moi, j'ai jamais touché une machine Lisp. Ça me semblait étrange qu'on fasse une machine dans lequel il y avait des cartes, des CDR, des cons, du CDR coding, des démos habillés de façon particulière juste pour Lisp, avec des portions de mots dédiées au CDR coding, comme il disait. Donc, pour les gens qui faisaient du Lisp depuis longtemps aux États-Unis, c'était sûrement pratique, mais ça me semblait... Il y a eu la même chose au Japon avec Prolog. Hein. Ils ont lancé des ordinateurs de cinquième génération qui étaient censés être basés sur le langage Prolog. Et avec le recul, c'est pareil. Je me dis, c'était une folie de faire ça. Jamais ils auraient dû se lancer dans un truc pareil. Prolog est trop rigide, trop rigide. Faut pas baser un ordinateur sur des trucs aussi de haut niveau, sophistiqués et aussi rigides. Et Lisp, je pense que c'était voué à l'échec. Quelqu'un de, comment dire, avec un peu de recul à l'époque aurait dû pouvoir dire non, c'est pas la peine, ça va être du pognon. Ceci dit, ils avaient peut-être tellement de pognon que pour eux, tenter des trucs comme ça, c'est pas gênant, quoi.
Tout à fait.
Mais avec le recul, c'est trop particulier, ouais. Ça valait pas le coup.
CCPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Daniel Goussens, auteur de son anthologie de 1977 à 1990 et La Porte de l'Univers chez Audi Édition, alias Fluid Glacial, et accessoirement chercheur en intelligence artificielle. Daniel Goussens, j'ai lu à l'époque ce qui a limité l'arrivée dans l'industrie des systèmes experts était l'encodage des raisonnements métiers en programmation ou en paramétrage. Vous venez justement d'expliquer. Comment cela se faisait? C'est parce que on envoyait direct les développeurs s'expliquer avec des ingénieurs et ils avaient du mal à passer du temps?
Bah oui. Ah, c'est ça, c'est comme ça dans les boîtes, oui. Le développeur du système expert allait voir les experts et leur demandait, bon, bah, alors dites-moi comment vous procédez pour...
En fait, c'était un problème de médiation. Il manquait ce qu'on appelle maintenant des product managers, product owners et tout ça.
Peut-être que c'était faisable, mais moi, j'ai l'impression que non. Un expert, c'est quelqu'un qui a un savoir intuitif. Il n'a pas du tout été formé pour exprimer son savoir. On pourrait le faire avec des médecins. Moi, ma fille, elle est rhumatologue. Je suis sûr que si je lui demandais, tiens, tu pourrais m'expliquer comment tu procèdes pour diagnostiquer un malade et décider si tu fais une infiltration ou autre chose, je suis sûr qu'elle serait incapable de formuler exactement comment elle procède. Et si je voulais faire un système expert directement, c'est-à-dire en programmant des règles de déduction, hein, conditions déduction, on n'irait pas très loin, je pense. On n'irait pas très loin.
Ou peut-être qu'ils avaient bien senti déjà que les ordinateurs allaient prendre leur place.
C'est possible. Non, je pense pas qu'on voyait dans les années 70-80, même début 90, on voyait pas encore la révolution du connexionnisme et du deep learning. Ça a été vraiment une grosse surprise, ça. Disons 2010, à partir de 2010. Mettons entre 2000 et 2010 pour la reconnaissance de la parole. Hein, je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, il y avait des trucs genre Dragon Naturally Speaking. Il fallait entraîner sa voix sur un vocabulaire spécial longtemps, puis il reconnaissait pas la voix du matin qui était enrouée. Enfin bref, c'était compliqué, il faisait plein d'erreurs. Et puis avec le big data, quand on a pu enregistrer des quantités faramineuses de façons de prononcer, là on a eu une reconnaissance extraordinairement améliorée. Moi, je sais que j'ai vu la transition entre, mettons, 2010 et 2020, plus précis peut-être vers 2015, sur du matériel Apple. Je faisais un petit logiciel où il y avait la reconnaissance de la parole. Et donc, avant, il y avait beaucoup d'erreurs. À chaque fois, il fallait que je recorrige en tapant au clavier. Et il y a eu un moment où il n'y avait plus d'erreurs du tout. Donc, ça vient de là, à mon avis, du big data et du fait d'enregistrer. Je sais que, par exemple, les femmes des ingénieurs français aux États-Unis, en Californie, étaient employées pour annoter des séquences audio qui avaient été soumises à Siri par les utilisateurs du monde entier. Là, elles, c'était spécialement pour les séquences en français. Donc, c'était ça leur boulot. C'était quelqu'un qui prononçait quelque chose et elles écrivaient ce qui avait été prononcé. Donc, ils lésinent pas sur la quantité d'informations à stocker dans leur grand centre de calcul. Hein. Et ça fait la différence, faut avouer.
Avec, après, l'inférence et tout ça, pour simplifier. Symbolics et Internationalist Machine ont fermé leurs portes dans la deuxième moitié de la décennie des années 80. Cela a été la fin des machines Lisp. Est-ce que ça a été en même temps la fin des systèmes experts spécialisés ou finalement on a fait une migration vers du PC standard?
Il n'y a pas de lien de cause à effet, mais ça a été concomitant. Ouais, c'est milieu des années 80, début des années 90, ça y est, c'était fini les systèmes experts. Ouais.
Plusieurs spécialistes du sujet ou même d'historiens de l'informatique parlent d'hiver nucléaire de l'IA sur la période entre 1986 et 2010. Est-ce que pour vous, c'est une expression exagérée? Il y a quand même eu des choses formidables qui se sont passées dans la décennie 90.
Non, il y a eu un hiver de l'IA. Il y a eu un rapport d'un type qui s'appelait Dreyfus, qui avait dit, milieu des années 80, je saurais pas le dater, 83, 84, un truc comme ça, que l'IA, il y avait un obstacle concret qui empêchait qu'elle se développe. Et donc, les financements se sont arrêtés à la suite de ce rapport. Donc oui, il y a eu un vrai hiver.
Et du coup, vous-même, en tant que professeur d'université, dans les labos de recherche et de
rien.
Tout ça?
Moi, j'ai rien eu parce qu'on n'avait rien. Donc, on avait... au début des années 80, on avait quoi? On avait une CAE 510 qui avait 1K de mémoire. C'était des mémoires à tort. Après, une télémécanique T1600 qui avait 4 ou 16K, je sais plus. Enfin bref, on avait du matériel. Je me rappelle, j'ai commencé, c'était carrément des machines à laver qu'on avait. Les CAE 510. Il fallait allumer, puis il y avait une sorte de tambour de machine qui se mettait en route. C'était disque dur, quoi.
Qu'il fallait qu'il se lance pour que ça aille suffisamment
voilà,
vite.
Etc. Et puis, voilà. Et donc, on avait une sorte de langage machine qui s'appelait le PAF. On tapait sur une grosse machine Underwood.
Oh là là.
Donc nous, on l'a pas senti. On était pauvres, comme chez de chez pauvres, quoi. Dès le début, je me suis équipé tout seul. Je suis allé acheter un TRS 80 en Belgique. C'était pas distribué en France. J'étais allé en Belgique acheter un ordinateur qui avait 4K de mémoire. C'est pas mal. Un petit écran de télé.
Le Tandy TRS 80 de mémoire, il était sorti en 77-78, hein, si je me trompe.
Ah bon, d'accord. Moi, je l'ai eu que en 80, je crois.
Oui, mais sorti aux États-Unis, pardon, je m'excuse.
Oui.
Oui, bah, dans ce cas-là, oui, si vous alliez à la Fnac, vous sortiez avec un Thomson TO7, vous alliez beaucoup plus vite et en plus, vous avez le stylo optique. Oui, c'était un petit peu dommage.
Mais TO7 et MO9, c'était un peu plus tard, non, je crois. C'était, quelles années?
TO7, c'était
84, 85?
TO7, 82, MO5, 84.
Ah non, oui, c'est vrai, ça, c'était plus tôt. Moi, je me suis acheté un Mac en 84. Parce que finalement, quand les Macs sont sortis, bah, c'était bizant. Moi, il y avait un écran graphique et tout. C'est cher, mais finalement, tant pis, je me suis acheté un Mac.
Grâce au droit d'auteur chez Fluide Glacial, si c'est indiscret. Non, pardon, on va pas poser cette question.
Bah oui,
on va y venir tout à l'heure à votre production bande dessinée. Il y a eu Deep Blue dans les années 90, puis Google DeepMind en 2012. Qu'est-ce qui a relancé en fait la recherche? Vous avez dit que c'était la quantité de mémoire qu'on pouvait stocker, mais qu'est-ce qui a rajouté? Il y a eu des évolutions dans la manière de programmer,
c'est des mots qui ont fasciné tout le monde et qui elles ont été rendues possibles. Alors je dirais peut-être pas Deep Blue, c'était déjà impressionnant, hein, mais enfin bon, le jeu d'échecs il est assez réduit, donc une machine qui fait du minimax en explorant toutes les parties possibles, c'était pas révolutionnaire. Par contre, quand il y a eu AlphaGo, alors là, c'était une révolution. Parce que le Go, on y jouait tous, et on disait, alors là, ce jeu-là, il est compliqué. 19x19, c'est trop grand pour nos algorithmes qui explorent toutes les parties.
Faut peut-être faire une parenthèse. Par rapport aux échecs, le Go est un jeu de territoire. C'est-à-dire, le but du jeu n'est pas de prendre des pièces, mais d'occuper un territoire.
Ouais.
Donc, c'est ce qui fait justement sa spécificité, oui.
Et c'est très intuitif. Donc, on se disait, là, c'est plus de l'analytique, C'est pas un machin qu'on peut transformer en algorithme. C'est vraiment de l'intuition humaine. Et donc ça, ça va pas être craqué par l'informatique avant longtemps. Bah, on s'est trompé finalement là-dessus. Parce que c'est pas que du connexionnisme, c'est l'association des algorithmes de Monte Carlo là qui explore des espaces de recherche. AlphaGo, il fait pas de l'exploration systématique de toutes les parties possibles. Hein. Il joue des parties complètes. Il joue une partie complète. Il regarde s'il a gagné ou s'il a perdu. Et puis il ramène l'information qu'il a gagnée ou perdue. Et il le note sur ce nœud d'arbre-là. Puis ensuite, il fait une deuxième partie complète, une autre au hasard. Et puis il regarde s'il a gagné ou perdu. Et puis il note. Et donc, au bout d'un certain temps, il a une sorte d'immense graphe de toutes les parties qu'il a jouées entièrement. Et ce graphe, sur chaque nœud, il y a marqué la probabilité qu'il a de gagner, la probabilité qu'il a de perdre. Voilà. Ceci, couplé avec un réseau de neurones qui classe, qui structure, qui organise les états courants de chaque partie, à une translation près, à une rotation près, des fois c'est les mêmes situations, donc il y a plein de situations qui vont se retrouver au même endroit. Le réseau de neurones, il sert à résumer un petit peu, sinon, Voilà. Rien qu'avec ça, on a fait un programme qui a été capable de battre le champion du monde de l'époque japonais, Lee Sedol. Donc ça a été des grands fracas. C'est ça qui a relancé l'envie de financer ces machins-là. C'est ses exploits. C'est Watson qui jouait à Jeopardy.
Oui. Au jeu télé en plus, hein, vraiment.
Voilà, qui trouvait la question quand on lui donnait la réponse.
Ouais, et qui jouait vraiment au jeu télé, qui d'ailleurs n'aurait pas tant brillé que ça, et c'est pour ça que finalement IBM a dit bon, on le fait pas en direct cette fois-ci.
Oui, c'est ça. Bah, il y a eu plein de bugs. Il y a eu Microsoft qui avait une IA qui disait des gros mots. Il y a eu.
Ça c'est taille. Mais ça c'est autre chose. C'est parce qu'elle était mal éduquée, cette ado.
Elle
file dans sa chambre, elle sera privée d'internet. Selon plusieurs spécialistes, dont Yann Lequin, qui était le chief scientist dans l'IA chez Meta, on serait arrivé au bout des large language models, des LLM. Est-ce aussi la limite du deep learning?
Alors, je pense qu'il a raison. Enfin, je pense qu'il a raison. Il a plus d'autorité que moi pour dire. Mais je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire, il me convainc. Et à l'utilisation, il y a une limite. Mais là où il se trompe, je pense, il croit qu'il va pouvoir découvrir, lui, avec sa nouvelle boîte, la prochaine percée technologique. Et là, il fait un gros pari. C'est pas évident qu'il y ait quelque chose de fantastique et de stable à portée de main. Mais ceci dit, par contre, et donc là où je me dis que peut-être il se trompe, c'est faut pas sous-estimer les IA actuelles, parce que moi j'ai mon fils qui travaille chez Apple par exemple, puis il s'en sert, moi je m'en sers aussi finalement, il se sert de Claude, moi je me sers de Gemini, et en programmation c'est fantastique, c'est-à-dire c'est le vieux rêve de tous les enseignants en informatique, c'est d'avoir à sa disposition quand on voulait se lancer dans la construction d'un système quelconque, je sais pas, un petit truc pédagogique pour travailler le son ou l'image, il fallait réécrire des tas de choses compliquées, de bas niveau, des outils numériques, etc. C'était énorme. J'étais lancé dans la réalisation d'un truc comme ça pour le son, et donc j'avais dû réécrire plein de petits trucs, la transformée de Fourier, des filtres numériques, comment stocker le son, etc. Et j'y avais passé des mois et des mois. Et avec mon fils, là, il y a quelques jours, on a essayé avec Claude, on a fabriqué en une heure ou deux, un petit logiciel qui prend en entrée de l'audio, par exemple notre voix, on chante pa 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 pa, ou alors la guitare, donc ding ding dong dong dong, et on lui demande de la rejouer avec la flûte. Et ben ça marche. Il prend le son, il l'analyse, il trouve la fréquence fondamentale et ses harmoniques, etc. Il rejoue avec un son de sinusoïde pure. C'est incroyable. Et donc, il faut penser autrement l'enseignement de l'informatique maintenant. Il faut plus raisonner en disant bon, je vais demander des trucs très simples aux étudiants. On peut leur demander des trucs ultra compliqués du moment que c'est réalisable. Quoi que ce soit qui est réalisable, grosso modo, l'IA c'est un raccourci avec tous les logiciels qu'ont fait les autres informaticiens. Il y a un côté un petit peu injuste, hein, c'est-à-dire tout ce que les gens ont posté sur GitHub et tous ces trucs-là. Maintenant, l'IA, elle les a récupérés. Et donc, elle se débrouille bien, hein. L'IA, ça sert à classer, structurer, organiser. Donc, elle les a bien classés, structurés, organisés. C'est bout de logiciel. Et donc, elle peut, quand on lui demande un truc avec des données à nous, elle peut instancier ses connaissances générales avec nos données et produire un logiciel qui répond à nos besoins. Donc, on peut demander à un étudiant de faire pour le lendemain un logiciel qui aurait été invraisemblable il y a 15 ans et espérer qu'il nous ramène le lendemain un logiciel qui fonctionne. C'est vraiment extraordinaire, je trouve.
Et pour faire un clin d'œil à Yann Lequin, au jour d'aujourd'hui, on enregistre donc le 10 mars, il a fait une levée de fonds de 980 millions de dollars.
Ouais,
donc ce qui fait que sa nouvelle start-up est évaluée à 3 milliards, donc je peux la faire. Yann Lequin est l'homme qui valait 3 milliards. Et c'est sur cette révélation stupéfiante qu'on fait une pause musicale. C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Daniel Goussens, auteur de son anthologie de 1977 à 1990, de ses publications sorties chez Fluide Glacial et de la série Georges et Louis Romancier, aussi chez Audi Éditions, et accessoirement, chercheur en intelligence artificielle. Alors, avant de parler de bande dessinée, sur vos dernières recherches, vous parlez de micro-univers, de treillis virtuels, d'hypercubes booléens. Alors, je sais, c'est une interview qui est censée parler exclusivement de 9e art, mais qu'est-ce que vous pouvez dire, justement, sur les avancées dans ce domaine-là?
Alors, le connexionnisme, ça a explosé entre 2000 et 2010. Hein. Pour le texte, c'est plutôt à partir de 2017-2018, quand ChatGPT apparaît. Mais ça a des limites, et on peut les voir. Quelques exemples. Quand on discute de façon sérieuse mais très haut niveau avec une IA, par exemple de politique, de philosophie, de religion, d'état d'âme, de profondeur, de littérature, que sais-je, il est incroyablement sophistiqué. Tant qu'on reste sérieux, c'est-à-dire il arrive à donner l'impression qu'il est non seulement plus profond que nous, mais plus cultivé. J'ai jamais croisé quiconque d'aussi cultivé qu'une IA. Il connaît tout sur tout. Et chaque fois qu'on soumet une hypothèse, il la complète avec d'autres. On dit oui, mais il y a aussi, etc. Mais faites l'expérience. J'ai essayé donc à un moment de continuer le dialogue avec des phrases qui ont aucun sens, qui veulent absolument rien dire du tout, sauf que je mets quelques mots du domaine, enfin du sujet dont on parlait. Il continue de façon totalement imperturbable et puis il sort les mêmes réponses avec la même structure, avec les tableaux, les petits points, machin. Il commence toujours par un compliment. Oui, formidable intuition, nanana, etc.
Oui, j'ai un copain qui est présentateur sur une émission de chaîne d'info continue. Il m'a dit qu'il s'amuse à ça avec ses experts en plateau, mais ses experts toutologues. Mais c'est pas sympa. C'est torturer une machine, je veux bien, mais quand même.
Il y avait un mec qui faisait ça dans les années 70, mais je me rappelle plus de son nom, un type avec une grosse moustache, qui interviewait les gens en leur posant des questions, mais en marmonnant un truc. Et c'était marrant de voir que quand c'était des hommes politiques, ils répondaient tout de suite à quelque chose.
C'est pas un petit peu justement le risque sur les LLM, puisqu'ils vont systématiquement essayer de trouver une réponse à la manière d'une personnalité politique? Ben non, ils n'ont pas de bonnes réponses, etc. Et donc, on n'arrive pas sur des biais qui sont très particuliers vis-à-vis de ce système de réponse de IA générative, d'essayer d'absolument vouloir répondre en tombant littéralement à côté de la plaque et en emmenant vers une erreur qui peut être catastrophique.
Ouais. Mais je pense qu'ils peuvent pas faire autrement, parce que ils ont des détecteurs d'ironie, mais c'est basé uniquement sur des contrastes entre mots, un mot qui a une charge affective, opposée à un autre mot, ou alors des petites situations qui ont un contraste. Donc, ils ont quelques petites théories, j'ai vu, de l'humour et de l'ironie. Et ils ont fait en sorte que le réseau de neurones, quand il détecte ça, il soit branché sur des prompts qui détectent l'ironie. Ah, je vois que vous essayez de vous moquer de moi, mais tout ça, c'est très artificiel. Il peut pas détecter l'ironie si on fait une phrase qui a aucun sens, mais qui contient deux, trois mots dans le sujet courant. Parce que ils sont faits comme ça. Hein. Ils prennent la conversation d'avant plus la phrase courante. tout ça, ça fait une grosse matrice. Il y a les mots, donc bah, le réseau de neurones, il voit qu'il y a les mots en contexte. Bah, du coup, il n'a pas de raison de se méfier. Puis il va sortir un truc qui est un peu pitoyable, mais je vois pas comment il pourrait corriger le réseau de neurones pour qu'il se rende compte du fait que l'utilisateur s'est mis à faire des phrases sans ironie, mais qui veulent rien dire du tout.
Et dans le labo de recherche de fluide glacial, vous avez chopé des auteurs qui ont osé utiliser ce stratagème indigne pour écrire un scénario?
Eh ben, faut avouer que non. Moi, j'ai utilisé, j'ai demandé. Des fois, c'est en malice. Des fois, le truc me dit. Des fois, je lui parle de moi. Je lui dis, ah, tu connais Gossens, Georges et Louis, etc. Là, je lui dis, ah ouais, mais bien sûr, je connais. Georges. Il y avait une époque où il racontait n'importe quoi, mais depuis, il est devenu vachement plus précis. Maintenant, ils sont précis. Ils connaissent vraiment. Ils ont lu la fiche Wikipédia, etc.
Ou ils ont piraté sur BitTorrent.
Oui, absolument. Oui. Je pense parce que des fois, il me sort des dialogues de mes BD. Je lui dis, mais comment il a pas pu lire mes albums? Enfin bref. Des fois, il me propose, il me dit, est-ce que vous voulez que je vous génère un dialogue à la manière de Gossens? Alors, j'ai dit, bah oui. Et alors, c'est concernant, c'est effroyable. Donc, on peut pas exploiter. Mais ceci dit, j'aurais bien aimé un jour prendre un de ces dialogues, avoir la patience de faire la BD, l'amener au journal, voir ce qu'ils disent, voir s'ils me disent, attends, Gossens, t'es malade en ce moment ou...
Et vous-même, quelle est votre vision en tant qu'auteur de bande dessinée sur l'IA générative et le fait que des très grandes entreprises ont utilisé des bases qui sont d'une source qui sont absolument noires, c'est-à-dire ça vient du piratage, c'est de l'illégalité, et que l'on s'en sert pour faire de la création, enfin, supposer être de la création à partir de là, et donc remplacer le travail d'auteur humain.
Bah oui, ça c'est une grave injustice. Mais de façon beaucoup plus concrète, rien qu'en informatique, hein, tous les gens qui ont fait des logiciels, alors soit ils les ont mis en public source, quoi.
Là, on les a mis en licence libre, en GPL, en BSD et tout ça. Tandis que là, on parle de d'œuvres protégées sous le droit d'auteur.
Ouais, c'est vrai. Bah je sais pas comment c'est protégé justement. Les dessins, les BD, c'est que illégal. Moi, j'ai pas de BD hors des circuits légaux qui sont disponibles sur Internet. Donc normalement, c'est pas accessible. Enfin bon, ceci dit, j'imagine qu'on arrive à contourner toutes les... Mais c'est sûr que c'est injuste. Il y a une injustice là. Ça, c'est sûr.
D'ailleurs, avant d'aborder votre carrière en tant qu'auteur chez Fluide Glacial, combien de vos confrères chercheurs, de vos élèves à l'université savent que vous dessinez pour le fabuleux magazine d'humour et de bande dessinée?
Eh ben, étonnamment, moi, à Paris 8, j'avais une grosse partie de mes cours qui étaient composés d'étudiants issus de l'immigration, et eux, ils connaissent rien du tout à la BD. Ils savaient pas. J'avais une toute petite partie de gens, ceux qui connaissaient, c'était des gens qui voulaient entrer au Gobelin, enfin dans des écoles de genre, mais qui pouvaient pas, qui n'avaient plus assez de place. Donc on leur disait, ben allez faire de l'informatique pendant ce temps. Donc ils se retrouvaient chez moi.
Ils auraient fait l'archi à Saint-Luc, ils auraient eu d'autres auteurs chez Casterman cette fois-ci.
Oui, exactement, oui. Voilà. Donc, bah, ils étaient frustrés, ils faisaient semblant de faire l'informatique en attendant qu'il y ait une place qui se libère dans une école d'art. Et donc, ceux-là savaient, ah oui, comment ça se fait que vous êtes dessinateur BD et enseignant
Après tout, Scott McCloud a fait une excellente BD pour le lancement de Chrome à la demande de Google, l'auteur du fabuleux L'Art Invisible, que je recommande fortement. Ouais. Et vous-même, est-ce que vous avez eu des demandes de dédicaces dans des colloques universitaires?
Ouais, ça m'est arrivé, ouais, par des collègues qui profitaient, ils étaient venus avec l'album d'Einstein, La vie d'Einstein, je m'en souviens d'un, qui était venu avec La vie d'Einstein, qui m'a demandé une dédicace en plein colloque.
Yann Lequin et Luc Julia, sont-ils heureux d'être pris en photo avec vous?
Comment ça
C'est-à-dire si jamais est-ce qu'ils vous admirent?
Non, je pense pas. Non, ils me connaissent pas du tout. Non, ils me connaissent pas. Non, c'est des gens. Luc Julia, il a travaillé chez Apple pour Siri. Je pense pas. Non, qu'eux connaissent la BD, ça, je pense pas.
En est-on sûr? Est-ce que vous avez visité leurs toilettes? On ne sait jamais. Daniel Gossens, merci beaucoup. Je suis vraiment désolé. On n'a plus le temps. On lit vos articles scientifiques tous les mois en kiosque dans Fluide Glacial. Merci beaucoup pour cette interview.
Merci à vous.
Je tiens à m'excuser auprès de l'équipe du service de presse de Fluide Glacial pour avoir usé d'un stratagème vil afin d'obtenir cette interview technique dont le contenu ne correspond pas à ce qui a été initialement déclaré à l'éditeur.